pris quoi comme vin?
C'est un cru, un grand cru.
Quelle région? Quelle appellation? Quoi? Quoi? Un vin de France? T'es sûr que ça se boit? Attention, je me suis donné de la peine pour vous faire un super pot-au-feu. J'espère que ton vin sera à la hauteur. Mais pourquoi tu secoues la bouteille comme ça en la bouchant avec ton pouce? C'est quoi ce gaz qui sort? C'est quand même pas une clairette de Die. Et d'abord, c'est quoi cette étiquette avec plein de couleurs et des jeux de mots? Il n'y a même pas écrit château, pas de belle demeure sur fond blanc. Vraiment, je comprends rien à ce que tu racontes. Un vin naturel, biodynamique, plus bio que bio. Mon vieux, tu m'inquiètes de plus en plus. Moi, ça me dérange pas que tu sois devenu un vrai bobo qui travaille ses enfants partout à vélo et qui marche pour le climat le dimanche. Mais le vin, attention, hein, c'est un truc sérieux. Il suffit pas de mettre des raisins dans une bassine, il faut de la science, connaître l'œnologie, savoir protéger la vigne des maladies et le vin de ses défauts. Crois-moi, c'est pas à la portée de n'importe quel pin qu'à chien dans le Larzac. Bon, ok, je te fais confiance. C'est quoi ce truc alors que t'as servi en apéro? Un chenin? Ah oui, il est bon, dis donc, buvable, léger, vif, aromatique, tu dis, naturel, bio, sans aucun intrant et sans sulfite ajouté. Tu l'as trouvé comment? Dans le Glue Guide. Le quoi? Écrit par Antonin Yomi Amunategui. Qui ça? Ce 58e épisode se nomme Antonin aime le vin. Bienvenue dans la Terre à boire. Il sera donc question aujourd'hui de vin naturel bon et bon marché de surcroît, ce qui résume toute la philosophie du Glue Guide, ce guide qui ne ressemble à aucun autre guide et dont le deuxième opus vient de sortir en librairie. Nous recevons donc son auteur. Bonjour Antonin Yomi Amunategui.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, j'ai bien prononcé ton nom.
Mais oui, et ça, à chaque fois, ça m'étonne. Bravo.
En fait, c'est un nom, tu es obligé de te concentrer, donc du coup, je pense que tu peux pas te rater.
Mais c'est systématiquement loupé, raté.
D'accord. Ah,
vraiment, bravo.
On va parler évidemment de vin naturel avec toi. On va parler du Glue Guide, on va parler d'édition sur le vin. On va déguster des vins également. Je vais d'abord, avant qu'on parle de tout ça, te présenter les personnes qui sont autour de la table. Je commence par les habitués. Patrice Defay, notre amateur passionné, passionnant. Bonjour.
Bonjour.
Philippe Viette, notre nouveau vigneron. Bonjour.
Bonsoir.
On est content de te retrouver ici.
Moi aussi, je suis bien content. Ça veut dire que je suis en vacances.
Ouais, ça m'étonnerait ça. Quelque chose me dit que non, en fait.
Si, si.
Si, si, c'est bon, le vin est dans les cuves.
Depuis ce matin, 10h30.
Tout est bon, là.
Voilà, tout est bon.
On va en reparler de tes vendanges dans une prochaine émission.
Avec plaisir.
Et à côté de ces deux habitués, un nouveau. Bonjour.
Hello, Yann, bonsoir.
Yann Diologent.
Bonsoir, bonsoir. Merci de m'inviter.
Écoute, merci de nous rejoindre. Alors, l'invité, c'est Antonin. Hein. Toi, tu bosses, en fait. Hein. Tu es là pour poser des questions.
Merci de m'inviter, Romain, à poser des questions à notre ami Antonin.
Non, mais bien sûr. Yann, tu n'es pas complètement nouveau pour les auditeurs de la Terre à boire, parce qu'on s'était déjà rencontrés dans ta cave.
Mais oui, c'est vrai, tu as raison.
Le sourire au pied de l'échelle, oui. C'était la saison 1. On était avec Philippe et on avait rencontré là-bas des charmantes vigneronnes de Loire.
Dis-moi en plus, c'était qui?
Lise Jousset. Voilà. Et puis, donc, voilà. Et donc, la sœur de
Mathilde.
Mathilde Pelé, voilà. Mathilde Pelé.
Charmante.
Exactement.
Voilà. je ne ferai pas de, comparatif entre les deux. Merci. Et
voilà. En tout cas, on avait dégusté des très bons chenins. Voilà. Et donc, voilà. Tu es l'heureux patron de la cave qui s'appelle Le Sourire au pied de l'échelle, rue de la Roquette, et du resto Zin qui est juste en face, qui s'appelle Les Marcheurs de Planète.
En effet.
Et la petite nouveauté, c'est que toi aussi, tu as ton podcast.
Ouais, super. Voilà. Je suis tellement content.
Welcome.
C'est vrai que l'aventure radiophonique avait commencé l'année dernière avec les coudes sur la table où on m'avait filé la chronique du caviste. J'ai adoré écrire et jouer à la radio et pris par cet élan, je me lance dans le podcast qui s'appelle Au service du vin. Et Au service du vin va à la rencontre de ceux qui entourent le vin et de ceux qui le font et de ceux qui vont construire des écrins pour que ce soit sublime, bon, meilleur. Et donc j'ai envie de les entendre et de savoir comment ils font.
Tu l'as déjà fait ton podcast ?
Ça y est, j'ai envoyé premier, deuxième, mais la troisième ce week-end. Ouais. Donc mes entraînements se font.
Tu vas avoir un procès, mais bon, on en reparlera la prochaine fois.
Pour le nom ?
Pour le nom.
Un procès par qui ?
Le sommelier du web, Emmanuel Delmas, ah, oui. a créé un magazine qu'il a appelé Au service du vin, et je pense qu'il est très tatillon. Mais ça peut se régler en duel avec des
en même temps, il peut aussi, on peut peut-être unir nos forces.
Je pense. Ouais.
Je vais peut-être faire ça pour son canal.
Ouais. En plus, il est un peu en dormance.
Mais
merci donc, pour l'info.
On se rappellera, l'histoire retiendra que le procès a commencé ici.
Exactement.
Carrément.
Donc,
il y a eu dénonciation.
Pourvu que ce soit national et que tout le monde le sache.
Longue vie à ce podcast. Yann, Romain, on en reparlera sûrement. On aura l'occasion. On va te laisser faire quelques épisodes et puis on aura l'occasion d'en reparler, j'imagine.
Ouais.
De tes interviews au long cours. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y a trois épisodes.
Trois épisodes. Le dernier épisode en date, c'est Sébastien Cornille, vigneron à Janières, domaine de la Roche-Bleue. Et c'est à écouter, c'est un vigneron.
C'est vraiment, très, très bon.
Oui, c'est très bon ce qu'il fait. Puis c'est sensible, sa parole, elle est extrêmement délicate, comme le pressurage de ses raisins ce jour-là. Et on a parlé de quoi ? On a parlé d'acidité. Dans les vins, on a parlé de viticulture beaucoup, on a parlé d'affranchissement de la technique et de la sensibilité pour faire du vin.
Voilà, donc on invite les auditeurs et les auditrices à aller découvrir ça. Antonin, on a du pain sur la planche, on a pas mal de sujets à discuter avec toi.
Il n'y a pas que du pain sur la planche.
Il n'y a pas que du pain, il y a également de la charcuterie, du fromage et une bouteille de vin qui se profile. Parce qu'on a l'habitude ici d'accueillir les gens avec une bouteille de vin, ou avec un verre de vin déjà, c'est déjà un début. Et cette fois, comme c'est un nouveau, donne-moi, je vais ouvrir. Les gens sont frayés par la forme du bouchon, c'est pas grave, ça se fait en live. Pourquoi ? Parce qu'il est arrivé avec un vin qui n'était pas assez frais, donc on l'a mis au congélateur. Donc on est obligé de l'ouvrir au dernier moment. Voilà. Recruter des nouveaux chroniqueurs. Pour ton bisutage, Yann, tu vas nous dire ce que c'est que ce vin.
Je vous apporte une bouteille de vin fait à Madiran, l'appellation Pacheringue du Vic-Bil. La vigneronne s'appelle Céline Houlier, une vigneronne délicieuse par la liaison qu'elle a avec le cosmos, j'ai envie de dire. C'est une nana qui a beaucoup bossé dans l'environnement, qui est très sensible à la cause écologique et qui va faire des vins. Là, je vous apporte une cuvée sans soufre, puisque ce soir, c'est quand même le thème. Enfin, peut-être d'avoir des vins nature, sans intrants, 100% raisin. Et puis... je pense cueillie au bon moment. Elle préfère son motto. Je pense que c'est pas la quantité, mais l'équilibre. Voilà. J'ai hâte de goûter. Un peu de potion magique, s'il vous plaît. Il n'y en a pas ici pour Antonin. Tiens, je vais te filer mon verre.
Ça, tu vas pouvoir...
Alors, dans cette bouteille, on trouve du petit courbu, du petit mazang et du gros mazang. Ça, c'est une cuvée qui a été élevée en cuve ovoïde. Donc, on peut peut-être sentir l'épaisseur du vin dans la bouche. Je vais directement sentir et goûter en direct. Ah, ça sent très bon. Ça sent très bon. Ça sent les fruits exotiques. Je ne sais pas si vous avez envie de dire des choses.
Il y a un peu d'ananas en effet, je trouve.
Mmh. Non, c'est très bon.
C'est dense.
Ouais. Oh, ça fait du bien. J'avais soif.
Il y a une belle texture. Il y a du grain.
Combien ça coûte ?
Ça coûte 20 euros chez le caviste. Ah.
Ça n'est donc pas éligible.
Fait exprès.
Ça n'est pas rentré dans le glouguide.
J'en ai fait exprès.
Au glouguide.
J'en ai fait exprès. Je me
c'est
suis
très bon. Ouais.
Parce qu'une de mes premières questions, justement, Antonin, c'est comment on fait quand... parce que j'adore cette démarche de se dire, ouais, moins de 15 euros, et tu as l'air d'y être très attaché. Tu veux peut-être nous expliquer à quel point tu y es attaché. Mais comment tu fais quand tu croises une bouteille à 20 euros comme celle-là, qui est tellement satisfaisante.
Il y en a quelques-unes.
Et alors, on triche déjà.
Vous trichez ?
On triche. Il y a toujours 3-4 vins qui dépassent nettement les 15 euros. Et puis, on boit aussi des vins qui coûtent plus cher et qu'on ne met pas dans nos guides, bien sûr. Mais l'idée, oui, c'est de montrer qu'on peut faire du vin naturel, que ça peut rester accessible, que ce n'est pas encore, je dis bien encore, un vin élitiste. Parce que ça risque de le devenir, clairement, dans les années qui viennent. C'est l'écueil principal du vin naturel aujourd'hui, qui n'a aucun autre feu rouge devant lui. Tous les feux sont au vert, tout le monde en veut, tout le monde en parle, mais le prix, c'est vraiment un problème.
Alors, je suis rassuré, ça fait du bien de l'entendre.
Si vous êtes d'accord, je vous propose d'évacuer un peu la question sémantique, parce qu'elle intervient tout de suite quand on parle de vin naturel. Moi, j'aimerais bien qu'on parle des vins eux-mêmes, et je trouve que c'est un peu ce que tu fais d'ailleurs dans le Blue Guide, puisqu'il y a une préface qui n'est pas très longue, qui se lit vite, mais qui évacue un certain nombre de questions, et notamment le fait que on réduit bien souvent, et c'est un thème qui a été qui a été déjà évoqué sur, sur les vins naturels, qu'on réduit cette question du vin naturel au soufre. Voilà, et c'est
le
évacué.
Grand, vilain, méchant soufre.
Laurent était intervenu dans un épisode terrible. Précédent pour dire c'est pas ça le sujet, en fait. On peut faire du vin industriel sans soufre.
C'est exactement l'arbre qui cache la forêt de toutes les vraies questions autour du vin naturel. Déjà, le terme vin, l'expression vin naturel, moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle est clivante, parce qu'elle est un peu provoque, parce qu'elle emmerde pas mal de monde, qu'elle fait parler. Donc, si on parle de vin naturel, bah, on fait tout de suite parler, on va dérouler autour du sujet. Donc, le vin naturel, c'est quoi? C'est un vin, évidemment, bio, vigne bio ou en biodynamie. Ensuite, on rentre sa vendange mûre, on vendange à la main, et on ne triture pas le mou, le raisin, à l'aide d'additifs divers et variés ou techniques brutalisantes, à l'exception possible, mais pas forcément souhaitable, d'addition faible de sulfite. Donc finalement, le seul additif autorisé en vin naturel, ce sont les sulfites. Donc c'est totalement l'inverse de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, de ce qu'on lit dans la plupart de, voilà, des articles qui sont consacrés à ce sujet. Et c'est très drôle de voir, notamment les supermarchés qui essayent de s'accaparer, évidemment, la niche commerciale que représente
le vin naturel. Gérard Bertrand.
Le premier, mais maintenant, il y en a bien d'autres. Et c'est assez rigolo de voir ça. On voit écrit vin naturel, en gros, chez Carrefour, hein, Leclerc, chez partout, Nicolas, chez Nicolas. Ouais. Alors que c'est aussi totalement illégal, il faut le rappeler. Écrire de façon commerciale vin naturel, c'est passible de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Hein. J'espère que Yann, tu ne le fais pas dans ta cave.
Non, voilà. Nous, on n'utilise pas du tout ce terme-là, j'aime pas trop, parce que voilà. J'aime pas trop le terme nature.
Mais il n'existe pas, de toute façon. Il n'y a pas de définition, il n'y a pas d'existence officielle. Il y en aura peut-être une, petit scoop, pour vous.
Avec la VN.
C'est Eric Morin
avec
qui...
Avec pas la VN, avec tout un groupe autour de...
D'Eric Morin, non.
De Sébastien David, en fait. C'est parti de l'affaire de Sébastien David, donc il s'est fait déclasser, enfin, pas déclasser, distiller de force sa cuvée de prestige, qui est d'ailleurs la dernière cuvée du Glogit 2, on l'a mise pour rigoler, même si elle coûte 25 euros. Et qui n'existera jamais, en fait, puisqu'elle a été foutue à la baille, où en fait elle va être distillée par Laurent Cazotte. Donc elle va pas si mal finir que ça.
C'est ça.
Voilà. Mais donc c'est vraiment tout le problème est né de là, et enfin toute la question de réglementer le vin naturel. Et ça va peut-être arriver. C'est-à-dire qu'il va y avoir un syndicat des vins naturels qui est en train d'apparaître au moment où on en parle. On dépose le dossier là à Angers, la mairie d'Angers. Et pour contourner l'INAO, parce que l'INAO et le CNAOC, donc le CNAOC c'est le Comité National des Appellations, l'INAO, Institut National des Appellations d'Origine, qui ont quand même la main mise sur toutes ces questions-là. Pour le contourner, ils ont fait un truc très malin, ça, franchement, bravo Sébastien David, bravo Gilles Azzoni et Jacques Carroget, ils ont créé une ODG. Donc un syndicat, ODG des vins naturels, et ça l'INAO ne peut pas, en fait, elle peut dire non, mais si l'INAO dit non, on peut aller ailleurs, pour quand même le faire valider, parce que toute l'agriculture, il y a des ODG partout, on n'est pas obligé de passer par la voie royale de l'INAO.
Ce qu'on appelle les ODG, pour précision, ouais, c'est les organismes de défense et de gestion.
Donc c'est vraiment les syndicats, en fait. C'est
un syndicat,
syndicat.
Qui défend, en fait, la charte d'un cru, par exemple. Hein, classiquement, voilà, les ODG en Beaujolais, on en a plusieurs, dont les ODG des crus, qui sont là pour s'assurer que les chartes liées en fait aux appellations sont respectées. C'est des chartes qui peuvent être modifiables. Cet été, il y a eu une grosse polémique, notamment dans le Beaujolais, sur les niveaux de volatilité, qui ont fait pas mal ruer dans les brancards. Je pense qu'Isabelle Perrault a un peu agité le chiffon rouge pour.
Et c'était juste après l'histoire de Sébastien David qui était aussi alpagué par la patrouille.
Exactement.
Pour la même raison précise, ouais. D'un taux d'acidité volatile trop élevé, voilà. Légèrement. Donc le vin naturel va exister, hein, il n'existait pas jusqu'à... Depuis 8000 ans, il n'existait pas officiellement, on en buvait, on en faisait, et là, cette semaine, il va exister.
Alors, c'est vraiment, pour l'instant, c'est une bataille sémantique, parce qu'on parle encore de vin nature, on ne parle pas de vin naturel, parce que... Non, mais je veux dire, ceux qui sont opposés, hein, parce que si, par définition, si on disait qu'ils sont naturels, bah, tous les autres ne le sont pas.
Exactement.
Hein, donc, il y a quand même une bataille sémantique, hein,
oui,
au dehors de ça. Et après, on parlait du hiatus du soufre, et tu le dis très bien dans l'introduction, le vin produit naturellement jusqu'à 20 mg de soufre. Donc, en fait, le vin naturel, c'est surtout une intention, c'est pas tellement soufre ou pas soufre, c'est l'intention de faire un vin sain, un vin libre et un vin le plus effectivement naturel, voilà. Possible, quitte à mettre un peu de soufre ou pas, puisque typiquement, un des moteurs qui sont les Lapierre, on ne peut pas dire que Marcel Lapierre n'est pas vrai pour le vin naturel, bah, il fait une cuvée avec un peu de soufre et une cuvée sans soufre. Donc même chez, on va dire, un des fondateurs de ce que sont les vins naturels, Marcel Lapierre, la question du soufre ne se pose pas.
Et puis ce qui est super important aussi, c'est que c'est important aussi pour le consommateur que les vignerons qui revendiquent
cette appartenance jouent le jeu et puis puissent montrer qu'il y a une traçabilité de leur travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens comme, comme Isabelle Perrault, donc les Côtes de la Molière, donc avec son mari Bruno, qui font des vins nature, mais qui sont certifiés Demeter. Ils ont 20 ans de bio, de biodynamie derrière eux. On sait d'où vient leur travail. Il y a une autre personne à qui je pense dans le Beaujolais que j'aime énormément et qui s'appelle David Large, qui fait des très 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 bons vins nature et qui aussi, lui, s'est cassé le dos et puis les mains pour certifier ses vignes. Et je pense que c'est super important. Parce qu'aujourd'hui, en fait, vous voyez des vignerons nature qui commencent à vous toiser quand vous êtes en bio, quand vous dites que vous êtes en bio. Et on a juste envie de répondre, écoute, ils viennent d'où tes raisins ?
Ça, c'est super important
ils viennent d'où ?
D'aussi parler de ces chapelles, c'est un mot que j'aime pas, mais voilà, parlons de chapelles pour dire les choses simplement. Le bio, la biodynamie, le nature, pour moi, ça va dans le même sens. Donc les gens qui se toisent, comme tu dis, qui vont se bagarrer, alors qu'en fait, ils sont dans le même camp, au fond, c'est absurde et c'est tellement contre-productif. Certains sont plus avancés, peut-être, ou certains prennent plus de risques, certains moins, pour plein de raisons qui sont toutes bonnes. Moi, je ne vais jamais dire au bio, putain, vous êtes nuls, vous faites du bio, moi, je préfère de nature, jamais, mais jamais de la vie, jamais. Moi, on me caricature souvent comme étant hyper radical, hyper militant, ce que je suis à certains égards, mais je fonde et je construis mon parcours sur des choses très précises. Je n'ai jamais attaqué les bio, parce qu'ils ont raison, ils ont tout compris déjà, les bio.
Il y a une bataille, je ne sais pas si c'est le terme, mais qui est en arrière-fond de tout ça, c'est celle des appellations, également, parce que...
Bien sûr.
Bio, c'est une certification, nature, ça n'en est pas, mais on a aussi, tu le mentionnes, il me semble également dans le guide, on se fiche un peu des appellations. Dans le vin naturel, on se met en vin de France parce que c'est l'appellation générique qui te permet de faire ce que tu veux.
En fait, c'est proprement révolutionnaire puisque ça déconstruit les hiérarchies et donc la hiérarchie des prix. Donc c'est bien ça le cœur du débat aussi.
Et c'est pour ça que le CNAOC, donc le Comité National des Appellations, dont je parlais tout à l'heure, est le premier frein à la reconnaissance officielle du vin nature ou naturel. Parce que évidemment, si on reconnaît cette smala de vins de France, parce que là, dans les Glou Guide 2, je pense que plus de la moitié des vins sélectionnés n'ont pas d'appellation, donc sont en vin de France. Si on dit que ces vins-là sont meilleurs, en creux, on dit que les vins d'appellation n'ont aucun intérêt, ne font que désigner une aire géographique, ce qui de fait est le cas. Parce que ça ne désigne certainement pas un critère de qualité de dire « Ah, vous êtes en Pomerol, c'est forcément bon ». Non, ce n'est pas vrai. Même pour les grandes appellations, ce n'est pas forcément vrai. Pour les petites, évidemment, non plus, ce n'est pas forcément vrai. Donc l'appellation aujourd'hui, à part dire « Le vin vient d'ici », a priori, parce qu'en plus il y a des triches, mais bon, ça c'est anecdotique, ça ne veut rien dire. Donc les vignerons naturels se sont tout à fait emparés de vin de France, ce qui est génial, parce qu'avant on avait le vin de table, qui pour le coup était très péjoratif, ça faisait la petite piquette, le vin de France... Le monde entier en veut. C'est la France, c'est la marque France, c'est génial. Et donc ça, ils ont bien compris ça, les natures, et ils s'en foutent. Enfin, pas tous, certains tiennent à leur appellation, se battent pour la garder, mais beaucoup n'en ont plus rien à faire dans le système actuel. Ça ne veut pas dire que le système d'appellation est mauvais, ça veut dire qu'il faut le refonder, repartir de zéro, pratiquement repartir de rien.
Et puis surtout, je pense que essayer d'exclure des gens qui se revendiquent nature, qui font un super boulot et puis que les pousser hors des appellations, c'est se tirer une balle dans le pied. Typiquement, j'en reviens à cette histoire de volatilité, de niveau d'acidité volatile là, qui a fait débat dans le Beaujolais. Parce qu'en gros, on est la seule région à se fixer en fait un niveau d'acidité volatile à 0,70, alors que la norme européenne, c'est 0,98. Qu'est-ce qu'a fait l'interprofession en Beaujolais ? Elle a décidé qu'elle ne donnerait pas de dérogation cette année aux vignerons pour autoriser des vins avec des volatiles à 0,80, au-delà de 0,70. Mais en gros, l'histoire, c'est que des gens qui vinifient en nature sont susceptibles d'avoir des vins avec une volatile au-dessus de 0,7. Et il se trouve que ces gens-là, parfois, sont des noms qui sont très reconnus, très demandés dans le milieu du vin. Et ils n'ont pas besoin de mettre le mot Beaujolais sur leurs étiquettes pour vendre. Donc c'est une totale absurdité. Parce que c'est des locomotives. Voilà. Donc il faut être intelligent.
Salut, écoutez, on est ravis. Après, moi, juste pour être un tout petit peu polémique, là on est parti un peu dans tous les sens, mais le seul chose que je reproche peut-être un petit peu à la démarche, c'est qu'elle est fondamentalement rock'n'roll, etc. Wine calling, les clashs, enfin bon, on connaît bien. Après, il y a une volonté d'être dans la terminologie, d'être très glouglou, jaja. Ça fait un peu piquette quand même.
Tu veux dire le mot ?
Non, mais le vocable. Le vocable.
Glou ?
Non, non, mais glou, jaja. Après, il y a tout autour des vins naturels. Il y a toute une...
Oui, tu veux dire toute la sémantique qu'on utilise. Voilà.
Donc, jusqu'où il ne faut pas aller le côté pour ne pas faire, pour pas se dire. Parce qu'effectivement, ce que ça demande derrière, c'est. D'où l'intérêt du Glue Guide. C'est, il faut vraiment connaître. Encore une fois, les appellations avaient cet avantage de donner une certaine lisibilité. Hein, pour quelqu'un qui n'est pas expert du vin naturel, bon, est-ce que j'achète celui-là ? Est-ce que j'achète. Donc, il n'y a que le guide qui permet. Donc, il n'y a pas de.
Est-ce que le terroir existe encore ? À travers ce que tu poses comme question. Est-ce que...
Ouais, mais le problème, c'est que cette hiérarchie dont tu parles, elle était faussée, en fait. En tout cas, elle est faussée depuis longtemps. Et donc, les gens, effectivement, s'attachaient à ces appellations, mais finalement, ils n'avaient pas une qualité garantie derrière. Donc, ils se trompaient, ou ils étaient trompés. Aujourd'hui, avec le vin naturel, on remet les choses à plat. Évidemment, c'est foutraque, c'est n'importe quoi, il y a plein de choses.
Et puis, tous les vins naturels ne sont pas bons.
Évidemment, comme tous les vins. Il ne manquerait plus que ça, qu'ils soient tous bons, ça serait vraiment étrange.
Ni une appellation, ni vin nature.
Rien n'est garanti.
Veut dire que le vigneron sait cueillir à maturité au bon moment.
Évidemment, il faut être un bon vigneron avant d'être un bon vigneron nature naturel.
Et puis, je pense que
on peut même dire que c'est encore plus difficile de faire un bon vin naturel que de faire un vin.
Bien sûr, c'est un vin sans filet. Moi, j'aime bien parler de vin sans filet. Et. Un vin sans filet, ben on est plus propice à se casser la gueule que si on a X techniques correctives.
Est-ce qu'il existe des vignerons conventionnels qui peuvent faire des vins punk ?
Alors, il y a des tentatives, mais si on utilise les techniques conventionnelles, le vin, au final, il ne peut pas être punk, parce qu'il est forcément cadré, standardisé. Et pour te dire, chiant, moi, ça m'ennuie. C'est même pas éthique, moi, je m'ennuie dans la bouche. Hein, je m'ennuie.
Est-ce qu'il existe des vignerons nature qui font des vins vinifs rétrogrades classiques ? Alors, ouais,
dans le Glue Guide, on a créé ce système de hiérarchie un peu rigolo où on donne pas de notes, on donne pas d'étoiles, mais on a des systèmes de distinction, et notamment classiques. Donc, il y a des vins nature qui goûtent de façon tout à fait classique. C'est le vin typiquement qu'on peut apporter le dimanche au repas de famille, sans autant dire que c'est naturel ou quoi que ce soit, et ça passera crème, parce qu'il est parfaitement droit, nickel, il déconne pas.
Je vais reprendre justement les classifications, parce qu'on va en parler ensuite. Moi, je trouve que ce guide est un guide naturel, comme les vins naturels, c'est-à-dire qu'il s'affranchit d'un certain nombre de codes, et c'est aussi un des éléments intéressants. 5 catégories, C comme classique, B comme buvabilité, H comme hardcore. Alors, le hardcore, c'est
mon préféré.
Je vais faire la petite lecture sur le hardcore. Papy peut expérimenter, prenez garde. Ce vin naturel ne fait pas la révérence. Il ne cherchera pas à vous séduire par les moyens habituels. C'est un rugueux. Il gazouille et grogne dans le verre. Il a peut-être même ce petit côté sale qui plaît étrangement à certains amateurs avertis. Catégorie O comme ours polaire. Donc là, c'est des vins très rares. Difficile
la nouvelle catégorie, ça.
De les trouver.
Elle n'était pas dans le premier.
Et W comme waouh. Bouteille bluffante, pour une raison ou une autre, ce vin ne vous laissera vraiment pas indifférent ou indifférente. Si vous voulez, on peut enchaîner là-dessus, sur en quoi ce guide a ce côté naturel. Moi, il y a plusieurs éléments. Là, c'est la classification. Il y a la question des accords. Alors, il y a des accords qui sont très, très amusants.
Oui, on le dit au début, les accords mets-vins, déjà, on n'est pas du tout formé pour ça. Et au-delà, ça nous ennuie, franchement. Donc, on dit qu'on peut tout à fait désaccorder les plaisirs et boire d'un côté, manger de l'autre. Donc, on a inventé l'accord idéal. Donc, ce n'est pas forcément des accords gustatifs, gastronomiques. Ce sont des accords souvent culturels. Donc, on va mettre un film, une musique ou un délire. Ça peut être vraiment n'importe quoi.
Un au hasard, avec un blanc d'Hervé Bossé. L'accord idéal, c'est des copains.
Voilà, ça c'est assez simple, mais parfois ça peut être aller plus loin dans le délire.
Elle est basique. Votre belle famille récalcitrante. Un bel orage.
Il y a de la poésie, ami poète, c'est un livre qui vous plaira.
Ami poète.
Parfois, c'est de la poésie un peu éthylique, c'est-à-dire que souvent, on a bu, ça c'est important, on a bu tous les vins dont on parle. On n'a pas goûté, craché, on les a bu littéralement. Donc, on a commencé à écrire au premier verre, et on a fini au bout de la bouteille éventuellement. Donc, ça c'est surtout Jérémy qui dit ça, certains textes ont été écrits en état d'ivresse totale. Ça peut avoir des vertus. Parce que après le livre est édité, donc vraiment les trucs où ça va trop loin, on les enlève. Mais ça, c'est intéressant.
L'ivresse n'est pas la garantie d'un bon texte.
Ah non, pas du tout. Non. Parfois, c'est le contraire.
Et pour relire, vous avez rebu.
L'édition aussi. À chaque étape du livre, on a rebu.
Il faut rappeler que l'accord mets-vins, ça s'écrit mets-mais, vin, V-A-I-N-S.
Oui, c'est comme ça qu'on l'écrit
au début. C'est important. Ouais.
Quel est ton dernier accord mets-vins réussi, toi ?
Le véritable ?
Oui, un accord.
Je ne me rappelle même pas. Je suis désolé, ça ne m'intéresse pas. Donc je ne fais pas du tout attention à ça. Alors après, je comprends qu'on adore ça. Hein,
ça peut déconstruire un peu le métier de sommelier au final, ça, quand même.
Alors, le métier de sommelier, pour moi, ça c'est très méchant. Je pense quand même que c'est un métier qui justifie les prix élevés des vins. Parce que les sommeliers ne servent pas des vins, très peu, des vins qui sont à petit prix. Ils vont servir des vins relativement chers parce qu'il faut pouvoir le payer, le sommelier, dans un restaurant. Donc, s'il y a vraiment un poste c'est dédié complexe. À la sommellerie, eh ben, il faut des vins pour pouvoir payer ce prix, qui justifie ce poste. Donc, voilà. Et donc, il y a un décorum, il y a tout un langage. Il y a une partie qui est évidemment fondée, vraie, réelle. Il y a une partie qui est le bluff, mais le bluff du vin, en fait. Hein, ça fait partie du jeu.
Décorum,
hein.
Ouais. Le cadre, le code.
Dont il se dégage parfois également
il y a des très bons sommeliers.
Une poésie certaine.
Ah oui,
la façon de parler du vin.
C'est ça, c'est donner envie en fait. Parce que c'est donner envie aux clients, aux consommateurs, aux buveurs. Et c'est pas facile du tout. Hein. Je dis pas que c'est un métier facile, je dis que c'est un métier qui peut être superflu en fait.
Mais
c'est un peu ce que tu fais aussi, tu donnes envie aux consommateurs quand on lit le glou.
Oui, mais après, moi j'ai des angles qui est le prix accessible et des bons vins. On n'a pas encore dit, mais c'est d'abord des bons vins. Parce que tous les vins qu'on a goûtés sont pas dedans, il y en a plein qu'on a laissé de côté parce que pour le prix qu'il coûtait, mais c'était même si c'était moins de 15, eh ben, ça ne semblait pas les valoir, ça ne semblait pas intéressant. Donc là, c'est que des bons vins.
Il y a une dimension. On parle des sommeliers qui décrivent les vins avec des phrases qui sont parfois en poulet. Tu coupes pas l'exercice de devoir décrire les saveurs.
Ouais, on le fait
alors,
un peu.
Ça part dans certaines directions. Parfois, c'est plus rock'n'roll que d'autres. J'en prends un encore une fois au hasard à propos d'un grincheux du domaine Les Vigneaux. Fruits qui fument d'emblée, texture de velours élimée, fraîcheur brève et bénéfique, gentil grillon d'acidité et une fin de bouche à base de kiwi cacao, point d'interrogation. Voici un vin d'un joli bloc et très, très buvable.
On parle toujours du vin quand même, parce que...
Moi, j'ai presque envie d'être rassurant là-dessus, c'est-à-dire qu'on parle vraiment de vin, c'est pas seulement buvez-le avec des copains et ça va être sympa.
Oui, c'est ça, parce que si on racontait juste la soirée et qu'on parlait pas du vin en question du tout, sans donner aucun terme descriptif, mais on essaye et on n'y arrive pas forcément de s'éloigner des façons de parler habituelles du vin. Et en fait, c'est très dur de s'en éloigner en restant sensé, parce qu'on pourrait dire n'importe quoi, mais ça n'aurait plus aucun rapport. On essaye quand même de parler du vin. Et en général, on va quand même pas être à 1000 km des commentaires de dégustation classiques, mais...
En n'utilisant pas le même vocabulaire.
Voilà, on essaie d'être quand même un peu à côté.
On ne parlera pas de vin vif.
On s'interdit rien, mais on essaie de, voilà, on cherche l'originalité et puis quelque chose de peut-être plus authentique, plus sincère.
Alors c'est quoi un vin codé. Bon pour vous alors ?
Un vin bon ? Un vin bon, c'est ça, c'est très très difficile question. C'est un vin qui nous réjouit assez vite en général. C'est-à-dire que la première gorgée, déjà, on peut être séduit.
Ça, c'est l'alcool.
Non, c'est pas l'alcool. L'alcool, c'est après. Non, il faut qu'il y ait du goût. Mais après, le goût, il peut être déstabilisant, il peut être troublant, il peut être presque entre le bon et le mauvais au début. On a du mal à se décider. Et puis, le vin, souvent, la force du vin naturel aussi, c'est d'évoluer. Il évolue très, très vite. Il évolue dans le verre, il évolue dans la bouteille. Il n'a pas le même goût du début à la fin de la bouteille.
Il y a plusieurs facettes, ouais, c'est ça.
Il n'a pas le même goût d'une bouteille à l'autre, du même millésime, du même vin. Ça change. Donc, en fait, voilà, ça, c'est un truc qui est très important, c'est l'élément de surprise.
Tout pour faire flipper le consommateur.
Si vous cherchez, si vous aimez la surprise, allez vers le vin naturel. Si vous voulez être rassuré, n'allez pas vers le vin naturel. Non, mais qui veut être rassuré toute sa vie ? C'est pas drôle.
Surtout
pour ça, là, il y a pas de risque quand même.
Surprend quand même les entre guillemets les penseurs. Jules Chauvet, il disait bon, moi, quand même, le vin, c'est PTH, quoi. C'est pureté, terroir, harmonie. Donc même si le vin il est naturel, tu parlais du raisin cueilli à maturité, c'est la première phase de Jules Chauvet. Hein. Mais bon, donc si on devait trouver quelque chose, après, il n'y a pas de fondamentalisme absolu, et chacun s'y retrouve dans chacun des vins, mais il faut quand même retrouver un peu de pureté dans le truc. Alors, de pureté, il peut y avoir de la volatile, il peut y avoir des etc. Moi, j'ai bu un Morgon de Foilard, Côte de Pie, en 2016. Ah oui, il y a de la volatile, mais ça donne une colonne vertébrale, ça donne une dimension, ça donne une énergie qui est fabuleuse. Après, il faut rester quand même, c'est peut-être ça la différence entre les vins naturels, entre guillemets, buvables et ceux qui ne sont pas buvables. Il faut que les défauts ne soient pas trop marqués, il faut rester dans l'harmonie quand même générale entre les différentes facettes.
Est-ce qu'il arrive dans le Glow Guide qu'on parle de sol ? Est-ce que parfois vous évoquez, tiens, j'ai goûté un vin de calcaire ou j'ai goûté un vin de sable, un vin de...
C'est pas notre angle privilégié. Parce que... pourquoi ? Bonne question d'ailleurs. Ouais. Parce qu'on parle du vin en fait. Comme on parle du vin, on parle de l'homme ou la femme qui l'a fait.
Oui.
On parle moins des racines, on parle moins du sol. Et parfois on sait même pas en fait. Parfois, on a juste eu la bouteille qui nous passait sous le nez. On l'a goûté, on l'a aimé et on n'a pas forcément demandé tout le CV du vin. Ce qui peut être tout à fait critiquable. Hein. C'est un choix. C'est un choix aussi de ne pas être trop dans la technicité. On veut montrer aussi qu'on peut tout à fait aimer et même comprendre le vin sans aller dans la technicité, ce qui est tout à fait respectable encore une fois.
C'est très louable.
mais c'est pas indispensable selon nous. Voilà, mais après ça se discute complètement.
Donc voilà, disons que le terroir s'efface au profit des personnes en fait. Souvent.
Au profit du plaisir, j'ai l'impression, du plaisir.
Non, mais oui, sur le VDF en général, c'est plutôt une personne qui a voulu faire
après,
un ringue.
Après, je pense que la vertu du. La vertu du vin nature, en fait, c'est puis de, justement de ces vignerons qui travaillent pas nécessairement dans des appellations, mais sur des vins de France, en fait, ça remet l'artisanat en fait au premier plan. C'est-à-dire que c'est ça l'intérêt de décloisonner un peu les appellations, c'est que finalement, c'est pas parce qu'on achète un Grand Bourgogne qui vient d'une parcelle de Grand Cru qu'on va avoir du plaisir. C'est surtout qu'en
enfin,
fait,
tout d'un coup, on peut avoir un Grand Bourgogne nature très cher et on a l'impression de le boire un peu comme une quille à 10
balles. Les Grands Bourgogne nature, avec les enjeux financiers qu'il y a, je suis pas convaincu que, à part.
Il y en a quelques-uns.
Peut-être quelques-uns, mais ça court pas la rue. Cher, ouais. Mais je pense que ça, décloisonner les appellations, ça le mérite en fait de remettre l'artisan au premier plan et son travail. Bien au-delà en fait du sol, des histoires de terroir,
d'appellations. Oui, parce qu'en plus, si on remonte à l'historique des appellations, on sait que beaucoup d'appellations n'ont pas été définies pour la qualité des sols et des terroirs, mais pour des raisons commerciales. Il y avait des fleuves à proximité qui permettaient de transbaliter les barriques, etc. Donc, il y a évidemment une question de sol, enfin, toutes les très belles choses importantes du terroir, mais ce qui est moins joli, ce qui était caché en fait sous le tapis, ça existait, c'était tout aussi valide et important. Et finalement, on n'en a pas tenu compte lorsqu'on a parlé de ces vins-là parce que c'était pas très vendeur. Donc tous ces éléments-là, les éléments purement commerciaux, on les a mis un peu de côté. On n'a parlé que du sol, que de la pente, de la belle côte rôtie, que sais-je. Et finalement, on a oublié des éléments très importants qui sont essentiels parce que si on avait su ça, on aurait peut-être eu des prix différents notamment. On aurait été moins dans ces délires de prix sur certaines appellations. Aujourd'hui, les écarts de prix entre les appellations très souvent ne sont pas justifiés. Mais si en plus vous avez un vigneron qui travaille pas très bien, une vigneronne qui travaille pas très bien, alors c'est encore pire que tout. Donc on a des vins très chers, pas forcément très bien faits, faits de façon médiocre, et qui sont vendus très chers. Et comme la plupart des gens n'ont autre chose à faire, ce qui est normal, de comprendre les vins, d'en goûter des centaines, des milliers, eh ben ils se laissent avoir parfaitement, notamment parce qu'il y a un sommelier qui leur dit ça, vous allez voir, c'est parfait, calcaire, j'en passe à des meilleurs, voilà. Donc ça, c'est... Ça fait partie des éléments qui sont à déconstruire pour revenir à des appellations.
Ceci dit, Antonin, le sol comme le vigneron, c'est pas parce que ça vient d'un sol, on pourrait dire, connu ou identifié depuis longtemps que c'est forcément bon. C'est comme le vigneron nature qui va faire un bon vin obligatoirement ou un vin bio qui est bon. Donc ça demande une certaine... C'est vrai de se cultiver, d'être curieux, et puis c'est un apprentissage du goût. Et pour défendre pour une fois les sommeliers, si le sommelier est bon, il va écouter sa demande et il va savoir presque apporter un vin nature, tu vois, à 15 euros ou à 30, on va dire, sur table.
Oui, non, parce qu'il y a raison, raison de défendre le sommelier parce qu'il y en a des exceptionnels.
Et dans l'écoute, il va
sont
savoir.
Ils sont très fans de vin nature.
Bien ils sûr. Font partie des passeurs. Ils sont très importants aussi pour la découverte des vins. Il y a quand même sa question de la lisibilité que tu évoquais, Patrice. La question des appellations qui est un peu ampoulée et tout ça, ça donne la lisibilité pas seulement sur ce vin il vient de là, mais aussi si c'est un Bourgogne, il est fait avec tel cépage. Il y a la question de la. C'est très restrictif, c'est très cloisonné, c'est un vrai carcan. Mais dans l'apprentissage du vin, moi, je pense que dans d'autres pays où il y a beaucoup moins de systèmes d'appellation, c'est plus difficile de rentrer aussi dans la connaissance des terroirs. Bon, c'est pas le même sujet, mais la lisibilité et du coup l'illisibilité qu'on ressent parfois face à des vins nature, donc, d'où l'importance d'un glue guide, elle est d'autant plus grande que waouh, c'est quoi ces étiquettes, c'est quoi cette façon d'appeler les vins, ça déstabilise. Et comme je pense que c'est précisément l'idée, c'est-à-dire que c'est intéressant d'être déstabilisé par un vin. C'est pas forcément l'approche de chacun et de chacune, quoi. Il faut accepter cette.
Après, ce qui est intéressant, c'est que nous, on s'y connaît quand même tous pas mal. Et il faut repartir du début, quoi. Quand on connaissait rien au vin, eh ben oui, on avait quelques appellations en tête, quelques noms connus qu'on avait en tête. On se disait, Saint-Emilion, c'est bon. Et on n'allait pas beaucoup plus loin que ça. Donc, il faut aussi voir ça, que le consommateur lambda, il n'a pas le temps, il n'a peut-être pas l'envie, il a raison de se plonger dans le sujet. Donc, il avait ses appellations. Mais on sait aujourd'hui que ces critères-là ne sont pas suffisants, et voire trompeurs. Donc c'est pour ça que nous, on appelle à remettre à plat les choses. Et il vaut mieux connaître trois vignerons dont on sait qu'ils travaillent bien, qu'ils aient une appellation ou pas, plutôt que trois appellations prétendument bonnes, alors qu'on sait très bien qu'au sein d'une appellation, c'est le jour et la nuit, il y a le pire et le meilleur. Donc les appellations en soi aujourd'hui c'est terminé, il faut passer à autre chose. Et le problème c'est qu'on ne passera pas à autre chose tant que le système en place restera en place. Et il est quand même très costaud, bien ancré sur son terroir, sur l'argent, parce qu'on a, pas parlé de, enfin, on a parlé de l'argent, des prix du vin du Glouguine, mais l'argent du vin, c'est des milliards et des milliards d'euros. C'est le deuxième poste d'exportation derrière les Airbus. Voilà, en France, hein, c'est très important. Et donc forcément, la profession a tout intérêt à ce que rien ne change. Et le petit caillou du vin naturel a ça vraiment de sain d'apporter un changement de fait. De montrer qu'il y a d'autres voies existent, qu'il y a des alternatives existent, et que peut-être il serait intéressant de s'y pencher en tant que consommateur. Il faut avoir toujours le point de vue du consommateur, je pense.
Ces approches-là peuvent aussi être tout à fait complémentaires. C'est-à-dire que pour des raisons notamment d'exportation et de lisibilité des vins français, parce que je pense que c'est aussi une des raisons du succès, c'est qu'on connaît et on a porté de ces marques à l'étranger, à l'international, Saint-Émilion, ça veut dire quelque chose pour un amateur de vin au Japon, ou en Australie, ou aux États-Unis. Déconstruire ça, c'est s'amputer d'une source de revenus pour des vignerons, dont certains jouent le jeu de l'appellation et en même temps s'amusent aussi à sortir des cuvées naturelles, passent en bio sur la partie appellation. Donc tout ça, on n'est pas obligé d'opposer frontalement les deux mondes, de déconstruire le premier pour pouvoir
le système d'appellation
élaborer
est super.
Le deuxième.
Je pense qu'on est sur deux publics différents en fait.
Pour faire des appellations, les faisant proprement.
Voilà, on regarde en fait le marché pour les Bourgognes ou les Bordeaux. On est sur des marchés qui adressent principalement l'Asie. Parce que en fait, c'est là où il y a une manne financière et des gens qui ont un pouvoir d'achat qui leur permet d'acheter des grands crus bourguignons ou des grands crus bordelais. Et puis, enfin moi, pour avoir un peu travaillé en Australie, dans un domaine là-bas, et ben les gens en fait sont plutôt les Anglo-Saxons. On sent qu'il y a quand même une grande partie du public qui est très demandeuse de vin nature, de vin bio. Les vins du Beaujolais ont une cote incroyable. La Pierre, Foyard, tout ça, c'est noms, ça fait des étoiles dans les yeux quand vous les évoquez. Les vins de Loire aussi. Donc, je pense qu'on est sur deux marchés en fait qui se complètent, qui contribuent aussi à un rayonnement de notre savoir-faire. Parce que, bon, mine de rien, sur des grands crus bourguignons ou bordelais, il y a quand même des gens qui ont un style, un savoir-faire qui est reconnu. Bien et sûr. Ça, on peut pas le nier.
Les appellations en soi, c'est pas du tout un problème. C'est les cahiers des charges, peut-être, qui sont pas assez restrictifs, exigeants, laxistes, et qui donc permettent tout et n'importe quoi, qui permettent qu'on retrouve des appellations censément prestigieuses en supermarché à 6-7 euros. Donc on est dans un dévoiement total de l'esprit. Mais l'appellation, le système en lui-même, il est formidable. Et puis en plus, il a une histoire maintenant lointaine, profonde. Donc il fait partie du patrimoine, c'est la culture aussi. Tout ça est entremêlé et nécessaire. Moi, je ne dis pas du tout, arrêtons les appellations tous en vin de France. Je dis, refondons les appellations.
Et de plus, en plus, je pense qu'il est très important, c'est que ça fait réfléchir sur nos pratiques culturelles.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire qu'en fait, on
ça devrait.
Ça devrait faire réfléchir. Et après, je pense que je trouve que en fait, les guéguerres de chapelle entre bio, biodynamiste, nature, malheureusement, ça fait du tort parce que du coup, ça alimente un peu. On fait le jeu en fait des gens qui veulent pas aller vers justement moins d'intrants.
C'est exactement comme la politique. Si vous prenez les partis de gauche qui sont 12, qui se tirent dans les pattes en permanence, et qui finalement, c'est la droite voire l'extrême droite qui emporte le pactole. Donc c'est exactement le principe. Cela étant dit, je précise que les vignerons nature et naturels ne sont certainement pas tous de gauche, loin de là. Au contraire, d'ailleurs, c'est assez intéressant ça comme question. C'est pas du tout corrélé. Mais oui, on est petits, les petits doivent s'associer, même s'ils sont un peu différents. Et ça, c'est vraiment terrible. Moi, je ne fais pas que des livres, je fais aussi des salons, par exemple. Je vois bien, quand on fait un salon qui n'est pas trop exclusif, qui permet d'entrer des bio, qui mettent un peu de sulfite, par exemple, y en a certains qui ne vont pas venir.
Et ça, c'était
la... tu fais venir des vignerons qui mettent 40 mg ? Ouh là là, moi, je n'y vais pas, moi.
Ça a été la grande, la grande intelligence de Mathieu Lapierre dans le Beaujolais. À l'époque où BBB était vraiment donc le salon bien boire en Beaujolais était à l'état embryonnaire, donc il y avait une fête des crus qui était organisée par l'interprofession dans le Beaujolais tous les ans, et il y avait un groupe de vignerons bio ou nature qui qui s'y sentait, enfin qui s'y sentait un peu à l'étroit. Et donc il y a eu en fait un espèce de salon parallèle emmené par Mathieu Lapierre qui avait lieu tous les ans dans le caveau de Morgon. Et puis pour faire grandir ça, bah, en fait Mathieu Lapierre il a eu l'idée en fait d'ouvrir ça à tout le monde. Donc à des vignerons qui étaient conventionnels ou raisonnés, des biodynamistes, des bio, et ça a donné bien boire en Beaujolais. Et aujourd'hui, bien boire en Beaujolais, c'est une force pour nous parce que ça montre la diversité et d'une de nos terroirs, mais aussi des gens qui font le vin dans cette région. Il y a 200 vignerons, il y a des bio, des biodynamistes, des natures, des conventionnels, des raisonnés. Et
c'est dans la communication entre ces mondes-là qu'on fait évoluer le schmilblick.
Bah oui, parce qu'en fait, les conventionnels, ils discutent. Moi, personnellement, à mon échelle, je discute avec des natures, avec d'autres bio, avec des conventionnels, sans qu'on s'arrache les choses.
Souvent, les vignerons sont copains entre eux. Quand ils travaillent sur une appellation, ils vont pas se...
Et on s'échange,
tous,
on s'échange
pas toujours, parce qu'en fait, ils
sont
dans la gueule.
Mais... dit ça, ceux qu'on a eu, en tout cas, qui le plus souvent sont en bio ou en biodynamie, qui jetaient pas la pierre à leurs voisins qui n'étaient pas, que voilà, chacun devait faire vivre un peu sa famille.
Et on se file des coups de main et on se file aussi des conseils, mutuellement. Donc c'est ça qui est génial. Donc on se fait tous progresser.
Je vous propose qu'on goûte un deuxième vin, celui que tu as apporté, que tu as choisi, Antonin.
Oui, qui porte un nom très explicite.
Explicite du Glouguide. C'est un vin de Stéphane et Caroline Morin, qui sont basés dans les Pyrénées-Orientales, Saint-André-des-Albères. Le domaine s'appelle Léonine, et le nom du vin ?
Chic et pas cher.
Voilà, c'est un hommage à Arnaud, j'imagine.
Il va y avoir un procès aussi.
Il pourrait y avoir beaucoup de procès sur les noms de cuvées, les étiquettes des vins naturels.
C'est le festival des jeux de mots. Hein. Pas toujours excellent.
Souvent, parfois très mauvais. Ouais. Il y a un métier inventé sur la création de noms de cuvées, je pense.
On compète avec les coiffeurs.
C'est ça. Qu'est-ce que...
Et donc, chic et pas cher, on est dans le Jajakistan. On n'est pas dans les pires. Je ne sais pas de quoi tu parlais là. C'est le Jajakistan, il faut l'appeler comme ça. C'est un vrai pays qui existe depuis quelques années. Qui regroupe une douzaine de vignerons et de vigneronnes. Il y a même eu un film sur ce pays fabuleux.
Wine Calling,
voilà, on l'a tous vu.
De Bruno Sauvard et qui Stéphane montre Morin bien... apparaît d'ailleurs. Tout à fait.
Il est dans le pays, ils sont une douzaine, avec Loïc Roux et autres grands vignerons nature de ce coin-là. Chic et pas cher, c'est une cuvée vraiment pour moi typique du vin naturel. C'est pour ça qu'elle est assez intéressante à goûter. Je crois que c'est un assemblage de Grenache, Syrah, Carignan, si je ne me trompe pas. On parlait tout à l'heure de terroir, je ne suis pas sûr qu'on puisse, à moins d'être vraiment un fin dégustateur, forcément reconnaître le sol ou quoi que ce soit, mais moi je la trouve très bonne cette cuvée. Et je la trouve très typique des vins naturels, qualitatifs, relativement simple à boire, accessible, parce que je pense même que quelqu'un qui ne connaît pas bien le vin naturel n'aurait pas un sursaut de dégoût, sera plutôt peut-être étonné par certains aspects du vin, il y a encore un petit perlan, j'ai l'impression. Donc un peu de gaz résiduel.
Un poil de réduction, mais qui s'en va.
Voilà, tout à l'heure, on parlait de défauts acceptables. On est totalement dans les défauts. Pour moi, ce n'est pas des défauts, mais je comprendrais qu'un sommelier, quelqu'un de très sérieux, un œnologue, dise il y a des défauts, mais ça va, c'est bon. Et voilà, c'est ça. Et en fait, c'est ça l'équilibre qu'on arrive à trouver avec le vin naturel quand il est bien fait. C'est ça. C'est-à-dire que les curseurs des déviances sont contrôlés, en fait. Alors c'est un contrôle tout relatif.
Il y a une harmonie globale, ce qu'on disait.
Il y a une vraie harmonie, oui. Et c'est ça qui est génial. Moi,
c'est sympa et ça se boit bien.
Ça se boit très bien. C'est aussi le gros problème des vins naturels. Ça se boit souvent très bien.
Qu'est-ce que vous en dites de ce domaine Léonine, chic et pas cher ?
C'est hyper, c'est très très gourmand. Alors moi, j'ai pas d'expertise sur la dégustation, mais c'est hyper bon. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un 2011. 2011. Moi, je vois 2011 là.
Alors, j'ai eu beaucoup de mal à trouver ce vin. Je l'ai trouvé sur Internet.
Donc, je trouve qu'intéressant, c'est qu'on montre comme ça que les vins naturels.
Tu as trouvé en 2011
et j'ai trouvé en 2011.
Donc, j'étais sûr que c'était en 2017 ou 16.
Donc ça vieillit bien.
Maintenant que tu le dis, il y a un petit côté évolué.
Mais ouais, c'est évolué, mais c'est encore. Garde tout son peps.
Ah oui, c'est très bien.
Le premier truc que je trouve intéressant, c'est que le vin a vieilli, mais il est encore.
Moi, je crois qu'il s'est gouré d'étiquette.
Très
bien. La robe, elle est violette pourpre. Tous les signes de jeunesse. Au nez, c'est.
En bouche.
Au nez et en bouche, c'est. c'est fruit et frais. 2011, je serais épaté. Alors ce serait, ça irait rejoindre. Si c'est vraiment 2011, ce serait magnifique pour les vins nature, parce qu'on les dit, on les dit souvent.
A priori, si c'est écrit sur l'étiquette, on n'a pas tellement de raison d'en douter.
Je pense que c'est vraiment 2011, parce que si tu fais attention, tu sens un peu l'évolution quand même. Alors on peut confondre avec le vin naturel l'évolution avec le côté isoxyde.
Ils sont rock'n'roll, mais ils font quand même pas n'importe quoi sur les étiquettes.
Le côté cuir du vin, la réduction dont tu parlais.
Je vois.
Ils sont rock'n'roll, mais ils font quand même pas n'importe quoi sur l'étiquette quand ils mettent une année, ils mettent la bonne.
A priori, c'est la bonne, oui. Mais c'est étonnant quand même côté 2011. On va faire confiance à l'étiquette. C'est en 2011.
Confiance, oui, tout à fait.
De toute façon, les vins naturels peuvent vieillir pourvu qu'ils soient bien faits. C'est toujours pas et qu'ils soient conçus dans cet esprit aussi, évidemment.
En tout cas, c'est délicieux. T'as payé ça combien?
12,50€. Je précise que je l'ai trouvé. J'ai eu du mal un peu à le trouver. Les cavistes à Paris n'en avaient plus. Sur Internet, il y en a un qui l'avait, mais finalement ne l'avait plus quand il s'agit de me l'envoyer. Et je l'ai trouvé sur un site qui s'appelle 2320. Voilà. Et j'ai reçu un carton très bien solidifié avec quelques bouteilles de ce vin. Donc je crois qu'ils le vendent à 12,50€. Donc il est glouguidable.
Il est dans le glougui 2 parce qu'il le mérite. Enfin, selon nous, il le mérite vraiment. C'est un vin. Il est fait dans les conditions, comme on disait tout à l'heure, sans filet. Donc, il y a vraiment, peut-être, je ne connais pas les rendements, mais ils ne doivent pas être énormes. Il y a la prise de risque qui est induite par le fait de faire du vin naturel. Et arriver en cave, parce qu'on parle bien d'un prix cave, ce n'est pas un prix professionnel, à 12,50€, c'est très respectable. Vu
frais de port compris. Hein.
Non. Non, 12,50€, c'est le prix affiché. Prix de la bouteille. C'est le prix de la bouteille. Sur Internet, je ne vais pas rajouter les. Bon,
oui, non, mais ça se trouve à 12,50€, grosso modo, après il peut y avoir des petites variations, mais chez les cavistes.
Est-ce qu'on peut dire un mot sur le fait que le bouquin donne vraiment sacrément envie de lire? J'ai l'impression que tu fais un boulot d'éditeur de dingue, c'est-à-dire on a l'impression que c'est un bouquin de BD.
Alors moi je ne suis pas l'éditeur. Hein. Bon, attention, nous avons un très bon éditeur, on n'a pas parlé
de l'éditeur. Il y a un graphiste où il y a quelque chose. Il y a une volonté de. Il y a des images, le texte est gros, c'est facile à lire. J'ai l'impression qu'on se met une heure et demie dedans ou deux heures et on va tourner les pages avec des listes, un peu comme dans une BD, avoir des goûts, des images.
C'est les éditions Cambourakis.
Voilà, Frédéric Cambourakis, c'est un éditeur qui était d'abord libraire, qui fait des livres depuis 10 ans maintenant en tant qu'éditeur. Et il faut le savoir que c'est certainement, et j'en suis sûr, l'éditeur au monde, depuis que Jean-Paul Rocher a disparu, le plus balèze en vin naturel, mais c'est une brute. Il passe d'ailleurs ses vacances à aller chercher, à remplir son coffre de vin nature. Il s'y connaît très très bien et il n'avait jamais fait de livre sur le vin avant le Glouguin. Donc c'était parfait, on s'est rencontrés dans un salon et ça s'est fait naturellement. Et vraiment, je suis très heureux de faire ça. Enfin, on est avec Jérémy très heureux de faire ce livre avec lui parce qu'il est raccord. On a fait des dégustations avec notre éditeur et on a choisi ensemble des vins. C'était formidable.
J'ajouterais sur le guide, parmi les choses qui sont original par rapport à un guide et qui est immédiat et qui fait, je pense, comme tu le disais Yann, que c'est quelque chose qu'on peut lire. Moi, je l'ai lu un week-end, un peu comme si je lisais un bouquin, un roman, quoi. Alors que c'est difficile de faire ça avec un, entre guillemets, un vrai guide classique. C'est d'abord que tu utilises le jeu. Tu parles de toi, tu parles d'un vin. Il y a notamment un vin dont tu dis, celui-là, je l'ai goûté pour l'anniversaire de mon frère qui fêtait ses 40 ans. Tu mets une part de toi, une part de récit qu'on ne trouve absolument pas dans un guide classique.
On avait cette volonté avec Jérémy de faire du Gonzo presque. D'ailleurs, on avait un autre projet d'autres livres encore plus trash, vraiment Gonzo, mais donc de se mettre en scène, d'être totalement dans le subjectif et jusqu'au bout, donc jusqu'à se mettre en scène et parler de soi, parler d'événements qui se passaient au moment où on buvait le vin. On parle de l'incendie de Notre-Dame, on parle de tout n'importe quoi. On est dans l'actualité. Au moment où on boit, il y a un contexte, et le contexte, de toute façon, nous influence.
Influe sur le goût.
Influe sur tout,
par
sur
exemple,
notre état d'esprit.
L'accord avec le chic et pas cher, c'est une rhinopharyngite.
Voilà. J'étais malade, en plus, mais j'étais vraiment malade.
Depuis hier, donc je te remercie, parce que ça me fait penser à ça.
Mais moi, ça m'est arrivé, pas sur celui-là, mais j'ai vraiment mis rhinopharyngite.
C'est celui-là.
C'est celui-là ?
Ouais,
voilà, d'accord. Mais voilà, donc complètement, le contexte est totalement important, et un vin qui en soi est peut-être très bien, peut nous paraître mauvais parce qu'on n'est pas dedans, et inversement. Donc les conditions de dégustation sont totales. Et on sait même que si on vous dit le prix du vin avant que vous le buviez, ça va vous influencer, que vous allez trouver meilleur systématiquement un vin plus cher qu'un vin... Enfin, ça a été vraiment prouvé avec des étudiants en plus en œnologie. Alors, mais le même vin, avec deux étiquettes différentes, un cher, un pas cher, il trouve force, enfin, à 90%, le vin plus cher, meilleur. Donc on est influencé par tout un contexte, par énormément de choses. Et donc nous aussi, évidemment, et on le dit, on l'assume. Après, on a des années de dégustation dans les pattes et on est capable de faire la différence entre un vin pas terrible et un vin bon en soi. Mais tout ça, tous ces éléments-là, il faut en parler, il faut pas faire semblant que ça n'existe pas.
Est-ce que, moi je trouve qu'il y a, pouvoir toujours faire de la pédagogie, parce que là, en gros, la pédagogie, c'est buvez-en et vous allez voir, c'est génial. Je ferais peut-être apprendre aux gens à déguster ces vins-là. C'est-à-dire que les gens sont surpris par la volatile. Non, mais quand on dit apprendre, non, mais apprendre, c'est peut-être de dire là, il y a un peu de volatile, mais c'est normal. Ça va vous donner un petit peu plus de tension dans le vin. Là, ça va déborder parce que c'est pas cadré par le soufre. Donc, vous allez avoir un goût. Peut-être qu'il y a peut-être ce petit supplément de pédagogie à rajouter pour que les gens y aillent plus naturellement et soient pas. N'aient pas envie de jeter le premier.
Alors, c'est ce qu'on a fait quand on a créé ces.
Au moins sur les hardcore.
Ces pictogrammes, voilà, on leur dit, si vous ne connaissez pas le vin naturel, commencez pas par hardcore. Et ça, c'est vachement intéressant parce que c'est un vigneron qui, pour moi, est un des plus grands vignerons nature de France, qui me l'a dit lui-même en parlant de ses propres vins. Donc, c'est Gilles Azzoni en Ardèche. C'est vraiment, il est d'ailleurs dans les deux Glouguides, enfin son fils dans le deuxième et lui dans le premier, puisqu'il est en pré-retraite. Et vraiment, pour moi, c'est quelqu'un de formidable, ses vins sont formidables, mais ses vins, pour le coup, ils peuvent être pétés de volatiles, ils peuvent être vraiment déviants, ils peuvent être vraiment bizarres, ils peuvent partir en cacahuète. Mais quand c'est bon, c'est des merveilles et c'est souvent bon. Donc lui, il le sait très bien. Il n'est pas du tout aveuglé par son propre succès, parce qu'il a vraiment un succès international qui ne se dément pas depuis des années. Et donc j'en parlais avec lui, il me disait, bah, si tu veux quelqu'un que tu veux convertir au vin naturel, que tu es en face de toi qui ne connaît pas ou très peu les vins naturels, tu ne le fais surtout pas goûter mes vins, parce que là, tu vas le dégoûter pendant 2 ans. Il ne va plus jamais vouloir approcher son nez d'un verre de vin naturel. Tu le fais commencer par des vins plus classiques, en biodynamie, bien construits, propres, droits. Et petit à petit, on peut évoluer, si ça nous plaît, tant que ça nous plaît, parce que si ça ne nous plaît plus, on s'arrête, vers quelque chose d'un peu plus foutraque, rock'n'roll, appelons ça comme on veut. C'est, chacun va où son plaisir le mène, et il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au bout. On n'est pas tous obligés d'être des hippies buveurs de vin déviant. C'est
du raisin fermenté.
Voilà.
C'est un peu comme en musique. On peut avoir envie le matin d'un peu de heavy metal et le exactement. Soir d'un peu de jazz.
Tu vois, un accord idéal culturel. Bravo, je te félicite.
Merci Antonin d'être venu dans la Terre à Boire. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter, des choses qu'on a complètement oubliées, passées sous silence? T'es éditeur par ailleurs.
Ah oui, non, je suis éditeur. Je n'ai pas édité ce livre-là, mais j'en ai édité d'autres autour de la gastronomie et du vin. Et le dernier qui vient de paraître, c'est Vigneron.
Et c'est la maison d'édition bien connue.
Nourriturfus. Donc Vigneron, 100 femmes qui font la différence dans les vignes de France. Donc un livre féministe écrit par Sandrine Gewerts, qui est belge, qui n'est pas française, mais qui connaît bien le sujet.
Puisque nous avons évidemment reçu dans la Terre à Boire, à l'occasion de rencontres Women Do Wine, Sandrine Gewerts.
Ah bah oui, super, d'accord. Voilà.
Et donc c'est effectivement une lecture à recommander.
Le Glouguide et Vigneron, c'est parfait. Prenez les deux.
Et le Glouguide, 1 et 2.
Il y aura 1000 livres mi-raisin aussi bientôt, non?
Alors 1000 livres mi-raisin, merci de le mentionner, c'est un salon super. Et là, on vient de l'annoncer. Et je sais pas, je suis hyper étonné des réactions qui sont très très enthousiastes. Et donc c'est un concept que j'ai dans la tête.
Tu t'attendais à l'inverse peut-être.
Je m'attendais à rien en fait. Et je me disais, oh là là, c'était un peu casse-gueule. Donc c'est un concept qui réunit un peu nos deux univers à nous. De l'édition et du vin, donc vraiment des livres. 30 éditeurs indépendants généralistes, j'insiste, c'est pas des éditeurs qui parlent que de picole, c'est vraiment, il y a des romans, de la BD, des essais, des récits, et des éditeurs super, des petits pointus géniaux. Goutte d'Or, Nouvelle Attila, formidable éditeur, Nouvelle Édition Wombat, j'en passe, c'est des meilleurs, et de part et d'autre. De l'autre côté, pardon, 30 vignerons et vigneronnes nature. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on va mettre ces 60 exposants, on va les mélanger, on va les accorder. Donc par exemple, un vigneron grec à côté de Cambourakis, parce que Cambourakis est grec et spécialisé en littérature grecque. On va faire des accords totalement improbables, et je pense que ça va être hyper marrant.
Ça se tient quand et...
Alors c'est à la Bellevilloise à Paris dans le 20e, les 14 et 15 décembre, donc juste avant Noël, de quoi faire des cadeaux.
Bah écoute, voilà, on invite chacun chacune à aller faire un tour à la Bellevilloise. C'était déjà là que c'était tenu, les rencontres Women Do Wine. Merci Antonin Yomi Amunategui.
Merci à vous tous
d'avoir été notre invité pour parler de ces vins naturels. On recommande donc d'acheter le Glouguide qui coûte évidemment 15 euros.
Ah, pas plus.
Voilà, pas plus. Il est au taquet du plafond du prix. Quand même.
L'éditeur a un peu fait la grimace quand tu lui as dit qu'il faut laisser à 15, mais c'est le prix.
Et qui est une belle lecture et qui donne effectivement des clés pour s'y retrouver. Merci Philippe.
Avec plaisir.
On va te retrouver dans pas longtemps pour parler de vendanges en Beaujolais.
Et oui.
Tu vas changer de place, tu vas arrêter de chroniquer, puis tu vas répondre aux questions de tes petits camarades.
Aria.
Merci Patrice, merci Yann pour cette première. On te retrouve au pied de l'échelle et même en podcast. Donc on se retrouve dans une paire de semaines pour parler de vendanges, pour parler de gamay, pour déguster des bons vins. Vous pouvez retrouver La Terre à Boire sur le site officiel laterreaboire.com. Vous y retrouvez tous les épisodes évidemment, ainsi que quelques photos de cet enregistrement et des précédents. Et puis évidemment, vous pouvez nous suivre un peu partout sur les réseaux que tout le monde connaît. Vous pouvez laisser des notes ou des commentaires sur ce podcast s'il vous a plu et écouter tous les podcasts qui parlent de vin, parce que c'est une grande famille, tout ça, c'est un peu comme le vin naturel. C'est le podcast distant.
J'adore, je bois tes mots.
Allez, on vous embrasse. Salut. Merci. À bientôt.
Allez,
ciao.
Allez,
ciao.
Bye bye. Bye. I'm so in love, there's nothing in life but you. I never regret the years I'm giving, they're easy to give. When you're in love, I'm happy to do whatever I do for you. Your hand, darling, it's grand. They just don't understand. Living for you, it's easy living, it's easy to live. When you're in love,